إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 77 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan dans son ta'liq, son commentaire qui s'intitule Al-Ta'liq al-Qawim ala kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et on est arrivé à la page 568 dans le volume 2 et le point numéro 25. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit: wa sababu hadha al-lafz al-aam ramy al-jimar huwa wa huwa dakhil fihi fal-ghulu fihi mithlu ramy al-jimar ramy al-hijar al-kibar wa nahw dhalik bina'an 'ala annahu qad balagha fi al-hasa fi al-hasa al-sighar. ثم علل ذلك بأن من بأن ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. نعم. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique que ici, quand on a parlé au dernier cours, on a parlé du danger de l'exagération et de l'extrémisme, et on a donné l'exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des petites pierres ou des petits cailloux qu'on lance dans les jamarat, et il a mentionné aux sahaba de choisir des petits cailloux au lieu de prendre des grosses pierres ou des grosses roches, et il a mentionné à peu près un peu plus gros que les pois chiches, quelque chose qui est un peu plus gros que les pois chiches, et ça c'est ce qu'on avait mentionné des paroles de ulama. Et après, bon, le cheikh il continue à ce sujet-là en disant que le fait de lancer les cailloux dans les jamarat, on cherche les petites pierres, parce que l'exagération là-dedans, ce serait de prendre des grosses roches, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'indication aux sahaba de choisir des petits cailloux et non pas des grosses roches. Et il a donné l'explication pourquoi il a demandé ça, c'est parce que il a dit que ceux qui ont vécu avant nous, ils ont péri à cause de leur exagération dans la religion et de leur extrémisme dans la religion. Et il dit, comme tu le vois chez les chrétiens. Il dit, comme tu le vois chez les chrétiens. Le cheikh, il dit que ça comprend ou ça implique que tu dois te détourner complètement et absolument de leur guidance et de leur mode de leur façon de faire les choses. Tu dois t'éloigner de ça complètement par crainte de tomber dans ce dans quoi ils ont péri ou ce à cause de quoi ils ont péri. Donc, plus tu t'éloignes de ce qu'ils ont fait, eh bien, c'est disons, c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu vas être plus en sécurité, justement, de ne pas tomber dans les choses qui les ont fait périr. Et le cheikh explique que celui qui y participe avec eux ou est complice avec eux dans leur façon d'agir, eh bien, on craint pour lui qu'il soit parmi ceux qui vont périr, comme ils ont péri eux-mêmes. Le cheikh explique maintenant, cheikh Al-Fawzan, le passage qu'on vient de lire. Il dit يعني أن من الأمور التي نهينا عن التشبه بأهل الكتاب فيها الغلو في الدين فإن النصارى قد بالغوا في العبادة حتى أحدثوا رهبانية ما كتبها الله عليهم ثم إنهم لم يقوموا بها حق القيام لأن الغلو ينقطع صاحبه لشيخ الزي que les choses qui nous ont été interdites d'imiter parmi les choses que font les gens du livre, c'est l'exemple de l'exagération dans la religion. Car les chrétiens, ils ont exagéré dans l'adoration et ils ont inventé, qu'est-ce qu'on a dit, le monachisme. Hein, qu'est-ce qu'on a parlé des moines dans les monastères. Et le cheikh, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur avait pas prescrit ça. Hein, et que même lorsqu'ils l'ont fait, cette innovation-là, eh bien, ils ne l'ont pas fait comme Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ordonné, ou bien ils ne l'ont pas fait comme il faut, hein, puisque c'est normal que la personne qui exagère dans la religion, elle ne puisse pas aller jusqu'au bout. C'est sûr que si elle va dans sa religion avec de l'extrémisme, tôt ou tard, elle va couper, elle va cesser, elle ne pourra pas continuer. Et c'est ça ce qu'on avait expliqué. Et le cheikh il dit ensuite ومن ذلك غلوهم في المسيح عليه السلام حتى رفعوه الى مرتبه الالوهيه وجعلوه ابن الله او ثالث ثلاثه او جعلوه هو الله بزعمهم تعالى الله عما يقولون. Donc le cheikh il dit, parmi les exemples de leur extrémisme et de leur exagération, c'est qu'ils ont exagéré après à propos de Al-Messih, le Messie, Jésus, fils de Marie, au point où ils l'ont élevé à un degré de divinité. Ils en ont fait un dieu. Et ils ont fait de lui, soit ils ont dit que c'était un fils de Dieu, ou bien qu'il était un dans la Trinité, hein, une des trois qui composent la Trinité, comme ils disent les chrétiens souvent, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, hein, comme s'il y avait trois dieux. Et également, yani, ils ont même parfois dit que c'était Dieu lui-même. Hein, ils ont dit parfois que c'était Dieu lui-même. Ou bien ils disent parfois Dieu incarné, Dieu fait chair. Ils ont plein d'explications, yani, ou plein d'expressions pour dire ça. De façon générale, yani, ils croient que c'est Dieu. Et ça, c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala est yani, purifié de ce genre de choses, puisque ça, c'est du shirk et du kufr. Yani. Le cheikh, il dit حيث ذكر الله مقالاتهم أو ذكر الله مقالاتهم في القرآن العظيم فالسبب في هذا الغلو هو خروجهم عن الحد المشروع والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ حصى الجمار بيده وهي حصى صغيرة أراد أن يبين للأمة المطلوب فأخذها بيده لكي يراها الناس حتى لا يحصل الغلو من بعد من لا علم عنده فيأتوا بحصى كبار ظنا منهم أنهم أنها أنكى وأشد من الصغار وأن الأجر فيها أعظم. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les paroles des chrétiens dans le Coran. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui mentionnent la position des chrétiens par rapport à Jésus et comment ils ont dévié à leur sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. C'est-à-dire que Allah il dit dans le Coran, certes ils ont mécru, ils ont rejeté la foi, ceux qui disent que Allah c'est le Messie fils de Marie. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Hein? C'est-à-dire, ils ont certes mécru ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des trois personnes de la Trinité. Hein? Ou bien le troisième du trois, ou des choses de ce genre. Et, yani, il y a d'autres paroles comme ça aussi à propos des chrétiens. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Hein, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais cela leur a paru ainsi. Et donc, tout ça c'est pour indiquer que, yani, ceux qui croient en ces croyances-là à propos de Jésus, et qui font de lui un fils de Dieu, ou Dieu, ou une trinité, ou des choses de ce genre, eh bien tout ça c'est des mensonges, et c'est du faux. Et que Jésus n'a pas été tué ni crucifié, mais cela leur est paru ainsi. Donc Allah, il mentionne tout ça dans le Coran de façon claire et explicite, et il dit que la cause de leur extrémisme, et c'est à cause du fait qu'ils ont dépassé les limites légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a ordonné aux sahaba de prendre des petits cailloux pour les lancer, au lieu de prendre des grosses roches, eh bien, c'est de prendre des petits cailloux. Il a voulu enseigner à la Umma qu'est-ce qui était exigé, hein, d'elle. Et donc, il a dit, il a pris dans sa main des petits cailloux et il l'a montré aux gens. Hein, il a pris ces petits cailloux pour que les gens puissent voir ça. Et pour pas qu'ils tombent dans l'extrémisme et dans l'exagération, et que ceux qui ne savent pas non plus prennent pas des grosses roches par la suite, en pensant que en prenant des pierres ou des grosses roches ça va avoir un effet plus grand ou qu'il y aura une plus grande récompense. Les gens vont dire, ah, on va prendre des grosses roches, comme ça on va frapper le shaitan plus fort, ou bien on va avoir plus de ajr, de récompense. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez des petits cailloux, yani, c'est ça qui est la sunna. Après, le cheikh il dit, كَمَا يُزَيِّنُهُ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ لِبَعْدِ الْجَهَلَةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Il dit, ça c'est de cette manière que le diable embellit, hein, ces choses-là au diable humain, hein, et au diable djinn, au diable parmi les hommes et au diable parmi les djinns, hein, qui embellissent à certains ignorants de cette umma de faire ce genre de choses. Donc il y a toujours il faut pas penser que le diable c'est seulement des êtres invisibles qu'on peut pas voir, parce qu'il y a des djinns parmi les djinns, hein, il y a des diables parmi les djinns, enfin, c'est des diables qu'on voit pas, hein, ils viennent nous soupirer ou nous suggérer des choses, hein, et nous inspirer des mauvaises choses pour nous inciter à tomber dans le péché et à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, mais ils n'ont pas de force pour nous forcer, hein, ils ne peuvent pas nous imposer ou nous forcer de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seulement les suggestions qu'ils viennent faire. Tandis qu'il y a des shayatines parmi les hommes, c'est des diables humains qui nous appellent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à contredire sa religion, et ceux-là sont parfois même plus dangereux que les djinns parmi les diables parmi les djinns. Et donc ils embellissent avec les diables parmi les djinns, hein, ils embellissent le faux à certains êtres humains pour les faire tomber dans l'extrémisme et dans l'exagération. Et le cheikh il dit, وَقَدْ سَمِعْنَا أَنَّ بَعْضَ الْحُجَّاجِ يُغَالُونَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ وَيَأْخُذُونَ حِجَارَةً كَبِيرَةً يَرْمُونَ بِهَا الشَّيْطَانَ بِزَعْمِهِمْ ويرون أنها أنكى وأضر للشيطان وبعضهم يرمي بالأحذية وكل هذا من الغلو في الدين ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي سيد المرسلين. الشيخ الفوزان il dit que on a entendu que certains parmi les gens qui viennent faire le hajj, quand ils font le hajj, ils exagèrent dans le lancer des cailloux, hein, dans les jamarat. Et ils prennent des grosses pierres pour les lancer sur les shaitans, comme ils pensent. Ils pensent que ça c'est le shaitan. C'est pas le shaitan, c'est des morceaux de ciment là. C'est des morceaux de ciment. Et tu fais ça, c'est un geste pour suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un geste symbolique. C'est des cailloux que tu lances. Et le fait que ce soit yani, des gros cailloux, ça va pas te augmenter ta récompense et ça va pas faire de tort au shaitan plus, comme certains s'imaginent. Il y en a même qui prennent leurs chaussures ou leurs sandales, ils lancent ça sur les jamarat. Le cheikh il dit tout ça c'est de l'extrémisme et c'est de l'exagération et c'est des choses qui sont en contradiction avec la guidance des meilleurs d'entre les, du meilleur d'entre les messagers, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit ensuite وَمِنْ هَذَا أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا عَنْ عِبَادَةِ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam وَلَمَّا أُخْبِرُوا عَنْهَا يعني كأنهم تقلوها فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء يريد بذلك التبتل يعني فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله فإني لأخشاكم وأخشاكم لله وأتقاكم له ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Donc le cheikh il mentionne encore ici le fait que il mentionne le hadith des trois hommes qui étaient allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas radiyallahu anhu. Il mentionne que ces trois hommes étaient allés voir les Léonides demander à propos de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on leur a donné l'explication, ils ont trouvé que c'était peu. Alors un d'entre eux a dit moi je vais prier la nuit, je vais pas dormir, et l'autre a dit moi je vais jeûner tous les jours, je vais jamais briser mon jeûne le jour, et le troisième a dit moi je vais pas épouser de femme, je vais rester comme ça célibataire pour toujours. Et yani, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il s'est mis en colère, il a été fâché et il a dit c'est vous qui avez dit telle et telle chose. Il dit par Allah je suis celui qui craint plus Allah et qui est plus pieux envers Allah, mais parfois je jeûne et parfois je ne jeûne pas, je prie et parfois je dors et j'épouse des femmes. Celui qui n'aime pas ma sunna, qui préfère autre que ma sunna, eh bien il n'est pas de moi, il n'est pas de moi. Le cheikh il dit fal khair wa najat wa salama bittiba' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa laysa kama yadhunnu al-mar' wa yastahsinu raghbatan minhu fil khair bi za'mihi fa inna al-khair kulluhu bil-iqtida' بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc le cheikh il dit que tout le bien et le salut et yani le fait d'être en sécurité et en paix, c'est dans le fait de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas comme certains pensent, ou que certaines personnes qui considèrent que yani, qu'est-ce qu'ils pensent eux, c'est ça qui est bien. Ça c'est pas ça qui définit le bien. Tout le bien c'est de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 21 dans sourate Al-Ahzab, il y a certes pour vous en la personne du messager d'Allah une bonne exemple pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier et se souvient d'Allah abondamment. Donc pour dire que yani l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur exemple à suivre. Le cheikh il explique ici ensuite wa hadiyuhu sallallahu alayhi wa sallam huwa al-i'tidal fa innahu yusalli wa yanam وكذلك يصوم ويفطر ويتزوج النساء ولا يتبتل عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين الحقوق فإن لله سبحانه حقا ولبدنه حق يعني حق ولأهله حق ولأمته حق فيعطي كل ذي حق حقه وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي التعامل مع الله جل وعلا والتعامل مع الخلق وذلك بالاعتدال والوسطية والمداومة على الخير فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليس المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la modération, c'est le juste milieu. Et donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parfois je prie et parfois je dors, parfois je prie, parfois je dors, parfois je jeûne, parfois je ne jeûne pas, et j'épouse des femmes, c'est-à-dire je reste pas comme ça sans femme, sans mariage ou des choses comme ça, non. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie d'établir l'équilibre dans les droits entre les personnes qui ont des droits sur lui. Et donc, il respecte le droit d'Allah. Il respecte son corps lui-même, parce que son corps a un droit sur lui. Il respecte le droit de sa famille, et il respecte le droit de la Ummah, hein, et ainsi de suite. Et il donne à chacun qui a un droit sur lui, son droit. Et donc ça, c'est la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'adoration, et dans les adorations, et dans le comportement avec Allah, et dans le comportement aussi avec les créatures, tout ça avec équilibre et avec justice. Et yani, en étant modéré et en suivant le juste milieu, et en faisant le bien de façon perpétuelle et continuelle. Il n'y en a pas comme ceux qui font beaucoup d'un seul coup, puis après qui arrêtent ou qui abandonnent, parce que ça, c'est pas correct. C'est pas correct, c'est pas acceptable. Et le cheikh, il termine en disant, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَلْيَسْلُكْ الْمَسْلَكَ الَّذِي سَلَكَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc il dit que celui qui veut, ou plutôt celui qui espère en Allah et au jour dernier, eh bien, qu'il suive le chemin ou la conduite que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi. Le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَذَّرَنَا مِنْ مُشَابَهَةِ مَنْ قَبْلَنَا فِي أَنَّهُمْ كَانُوا يُفَرِّقُونَ فِي الْحُدُودِ بَيْنَ الْأَشْرَافِ وَالْضُعَفَاءِ وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، وأن كثيرا من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة في الصحيح، يعني أجود في السياسة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت، لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Donc le cheikh, il explique ici, il dit, parmi les exemples des choses dans lesquelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, hein, de ne pas ressembler à ceux qui étaient là avant nous, c'est l'exemple de ceux, par exemple, qui faisaient une distinction dans l'établissement des peines et des punitions, hein, de la charia ou de la religion, entre les riches et les nobles et les gens faibles et les gens pauvres. Donc ça, c'est une forme d'injustice. Quand c'était les riches et les nobles, ils l'appliquent, la peine, et quand c'est des pauvres, ils l'appliquent, quand c'est des riches, ils les laissent. Hein, ils les laissent s'en aller, ils les laissent s'enfuir. Ils les punissent pas parce que ce sont des nobles. Ça, c'est yani, Allah musta'an, subhanallah. Donc le cheikh, il dit que il a ordonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'établir l'égalité entre les hommes par rapport aux peines. Et il dit que même si certains parmi les gens qui possèdent de l'opinion et de yani, ils savent comment gérer la politique, mais ils pensent que de laisser aller les personnes qui sont à la tête et qui sont les chefs ou les responsables, de les laisser et de les épargner et de les excuser, que ça, c'est mieux en politique. Et le cheikh, il explique, il dit que pourtant c'est rapporté dans As-Sahihain, dans le Bukhari et Muslim, selon Aisha radiallahu anha, elle a dit que à propos d'une femme qui faisait partie de la tribu de Bani Makhzoum, cette femme, on l'appelle Al-Makhzoumiya parce qu'elle vient de cette tribu, la tribu de Bani Makhzoum. Et elle a volé, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait établir sur elle la peine qui est de couper la main. Parce que dans l'islam, lorsque quelqu'un a volé quelque chose, eh bien la peine c'est de couper la main. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont essayé de trouver quelqu'un pour aller parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour aller essayer de dire de ne pas appliquer la peine sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la femme Makhzoumiya. Hein? Elle s'appelait Fatima. Je pense que c'était Fatima bint Qais ou quelque chose comme ça. Wallahu a'lam. Donc, cette dame, elle a volé. Donc, ils ont cherché quelqu'un pour aller parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont demandé, mais c'est qui est-ce qui pourrait écouter, hein? Qui est-ce qui pourrait avoir l'oreille du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce genre de situation? Et ils ont pensé à Oussama ibn Zayd. Alors, ils sont allés voir Oussama, ils lui ont parlé. Alors, Oussama est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et il lui a dit, Yanni, est-ce que tu pourrais pas, Yanni, laisser partir cette femme et ne pas appliquer la punition sur elle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère à ce moment-là quand il a entendu ça. Et il a dit à Oussama, oh Oussama, est-ce que tu veux intercéder dans une des peines, parmi les peines d'Allah? Hein? Il dit, les gens de Bani Israël, ils ont péri lorsque les nobles d'entre eux volaient et on les laissait partir. Hein? Et quand le pauvre volait, eh bien on appliquait sur eux les peines. Et il dit, je jure par celui qui tient mon âme en sa main, que même si la voleuse c'était Fatima bint Muhammad, je lui aurais coupé la main. Même si la voleuse c'était Fatima, la fille de Muhammad, c'est-à-dire ma propre fille, je lui aurais coupé la main à elle aussi. En voulant dire que je ne vais pas faire de distinction dans les crimes par rapport aux gens et leur classe sociale ou leur statut ou leur lien de parenté ou des choses de ce genre. Quelqu'un qui a commis un crime, eh bien, il mérite la punition qui est applicable à ce crime et ainsi de suite. Donc le cheikh, il a cité ce hadith. Maintenant, on va lire les explications de Cheikh Saleh Al-Fawzan à propos de qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a dit ici. Le cheikh Al-Fawzan dit, il dit, هذا نوع آخر من الأمور التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتشبه بها بأهل الكتاب وهي الشفاعة في الحدود والحدود جمع حد وهو عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وحدود الله يراد بها محارمه ويراد بها تشريعاته في الحلال والحرام ومنها يعني من الحدود يعني ومن الحدود العقوبات التي شرعها الله. Donc le cheikh il dit que يعني parmi les choses également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti à son sujet et qu'il nous a averti justement de ne pas imiter ou de ne pas essayer de ressembler aux gens du livre, dans les choses dans lesquelles on est interdit d'imiter les gens du livre, c'est l'exemple des du fait d'intercéder dans quelqu'un lorsqu'il fait des crimes, de ne pas appliquer sur eux les punitions prescrites par l'islam pour ces gens-là. Et le mot pour décrire en arabe les peines, c'est le mot hudoud. En arabe, les peines, hein, les peines, les punitions, le mot qu'on utilise pour les désigner en arabe, c'est le mot hudoud. Et le singulier de ce mot-là, c'est le mot had. Donc on dit un had et des hudoud. Hein? Et donc l'application des hudoud, c'est une punition qui a été prédéterminée selon la charia pour un péché en particulier, pour empêcher le péché en question ou faire en sorte que les gens ne tombent pas dans ce péché-là. Et donc le terme hudoud, il peut être utilisé pour plusieurs significations en même temps aussi. Donc le cheikh il dit par exemple, on peut dire le terme hudud, on peut employer le terme hudud pour désigner les interdictions de la charia et qu'est-ce qui est halal et haram. Donc ça c'est une utilisation du terme hudud. On peut également utiliser le terme hudud pour les punitions que Allah a légiférées, comme on l'a dit. Et il dit فالحدود تطلق ويراد بها المباحات قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. Le verset 229 dans sourate Al-Baqarah. Il dit aussi le verset 187 dans sourate Al-Baqarah, il utilise aussi le terme hudud pour désigner al-muharramat, c'est-à-dire les choses interdites dans l'islam. Il dit تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تقربوها. Donc le premier c'est فلا تعتدوها et lui c'est ولا فلا تقربوها. فلا تقربوها ça veut dire ne vous en approchez pas. C'est-à-dire ne vous approchez pas des limites d'Allah, c'est-à-dire de ses interdits. Et il dit également qu'on utilise le terme yani hudud pour désigner aussi al-uqubat, c'est-à-dire les punitions, et c'est de ça qu'on est en train de parler actuellement. Donc le cheikh il dit وتطلق ويراد بها العقوبات وهي ما نحن بصدده الآن فمن ذلك حد الزنا مثلا فحد الزنا بالنسبة للبكر هو جلد هو جلد مئة جلد مئة هو جلد مئة وتغريب عام فقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. Donc il explique que il y a des peines et il dit parmi les exemples des punitions qui existent dans la charia, il y a la punition pour la qu'est-ce qu'on appelle az-zina. Az-zina. Il faut comprendre une chose en arabe quand on dit zina, c'est traduit parfois par le terme adultère, mais c'est également traduit par le terme fornication. Parce que en français, les deux termes sont différents. Fornication et adultère. En arabe, les deux sont désignés par le même nom, c'est-à-dire az-zina. Donc az-zina désigne yani le fait yani de faire la fornication et de faire l'adultère en même temps. Et c'est-à-dire pas en même temps, mais je veux dire, ça peut vouloir dire les deux choses. C'est ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que le cheikh explique ici? Comme par exemple, il dit que la peine pour le zina, en ce qui concerne la personne qui est vierge, c'est ça qu'on appelle la fornication en islam. La fornication, c'est-à-dire quelqu'un qui fait l'adultère et qui n'a jamais été marié auparavant. Donc, il a des rapports sexuels avant le mariage. Donc ça, c'est un grand parmi les grands péchés, et ce qu'on appelle zina. Mais c'est, en français, c'est la fornication. C'est la fornication. Et la peine pour ça, c'est quoi en islam? C'est 100 coups de fouet et d'être exilé pendant une année. Donc c'est l'exil pendant une année et 100 coups de fouet. Donc ça c'est par rapport à la fornication, c'est-à-dire celui qui a des rapports sexuels avant le mariage, il ne s'est jamais marié. Ça c'est la peine, c'est 100 coups de fouet et un exil pendant une année dans un autre pays. Ensuite le cheikh il dit قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. Il dit en ce qui concerne la personne qui fait l'adultère, ça c'est la preuve de cette peine-là dans le Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation de ces versets-là. Ça c'est un verset dans Sourate An-Nur, le verset 2, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, la personne qui fait l'adultère, ou plutôt ici c'est la fornication, homme et femme, frappez-les de 100 coups de fouet. Frappez-les chacun de 100 coups de fouet. Donc ça c'est la punition pour la personne qui fait la fornication dans l'islam. Et il dit que la sunna a rajouté un élément à ça, c'est l'exil pendant un an. Le cheikh il dit, جاءت السنة بأنه يغرب سنة عن بلده حتى يتبدل حاله ويتغير سلوكه إلى الأحسن. وأما إن كان ثيبا وهو من وطأ زوجته في نكاح صحيح وكان كل من الزوجين بالغين عاقلين حريين أو حرين فقد جاءت السنة المتواترة بأنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وجاء هذا في القرآن الذي نسخ يعني الذي نسخ لفظه وبقي حكمه. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فحد الثيب الرجم حتى الموت. وإذا كان ثيبا يعني حتى الموت إذا كان ثيبا. وهذا هو الذي شرعه الله لأهل الكتاب من قبلنا وشرعه لنا. Le cheikh dit, en ce qui concerne la personne qui, par exemple, donc a fait la fornication, il est fouetté 100 coups de fouet et il est exilé de son pays pour qu'il change et jusqu'à ce que son comportement se modifie. Il dit, en ce qui concerne la personne qui a été déjà mariée, la personne qui a déjà été mariée, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu un rapport sexuel avec son épouse dans un mariage qui a été valable, un mariage qui est correct. Donc cette personne, à partir du moment qu'elle a déjà été mariée, et que les deux époux étaient, avaient atteint la puberté, et puis ils avaient la raison, ils étaient libres, alors dans ce cas-là, la sunna qui est mutawatira, c'est-à-dire qui est rapporté par un immense nombre de rapporteurs de hadith, ils ont rapporté sans aucun doute dans l'authenticité de ça que il doit être lapidé par des pierres, jusqu'à la mort. C'est-à-dire que la personne qui fait l'adultère dans l'islam, qui a des rapports sexuels en dehors du mariage avec une femme avec qui il n'est pas marié, ou une femme qui a des relations sexuelles avec un homme et qu'elle n'est pas mariée avec cet homme, alors qu'elle a déjà été mariée, eh bien, dans ce cas-là, c'est considéré comme si c'était de l'adultère, et la peine pour l'adultère dans l'islam, selon tous les savants, c'est la lapidation jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'on lance à la personne des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Et ça, c'est rapporté dans le Coran. Sauf que le verset du Coran à ce sujet-là a été abrogé. C'est-à-dire que son lafd, c'est-à-dire le verset qu'on récite lui-même, il a été abrogé. On ne le retrouve plus dans le Coran. Mais sa récitation est restée. Dans le sens que, plutôt son verdict, sa récitation a été abrogée, mais son verdict est resté. Et le verset pour l'adultère qui était révélé par Allah dans le Coran et qui a été abrogé, c'est le verset suivant. Vous l'avez peut-être déjà entendu, ce verset-là. C'est والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. Ça c'était le verset qui était dans le Coran, qui était récité par les Sahaba au début, puis que par la suite Allah il l'a abrogé, hein, et on le récite plus. Sauf que son verdict il reste. Son verdict il reste. C'est-à-dire qu'il est encore applicable. Et il doit être encore appliqué. Hein? C'est que dans l'islam, quand quelqu'un fait l'adultère, eh bien, la peine pour ça, c'est yani, la lapidation. Ça veut dire, al-sheikh, c'est l'homme, hein? En voulant dire l'homme, ou al-sheikha, yani, la femme, lorsqu'ils font l'adultère, alors lapidez-les tous les deux. Comme châtiment pour, de la part d'Allah. Et Allah est puissant et sage. Donc ça c'est le verset. Et le cheikh il dit فَحَدُّ ثَيِّبُ الرَّجُمُ حَتَّى الْمَوْتُ إِذَا كَانَ ثَيِّبًا وَهَذَا هُوَ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِنَا وَشَرَعَهُ لَنَا. Donc le cheikh il dit, donc la peine pour la personne qui est qui a été mariée, peu importe qu'elle soit divorcée ou qu'elle soit toujours mariée, même si elle a été divorcée par la suite ou qu'elle est veuve, du moment qu'elle a déjà été mariée dans un mariage qui est légal et qui est correct, et que par la suite elle fait l'adultère, c'est-à-dire elle a des rapports sexuels avec une autre personne, hein, en dehors du mariage, alors dans ce cas-là, elle est lapidée. Même si elle est divorcée. Du moment qu'elle a déjà été mariée.
Donc si je comprends bien, c'est aussi large que ça.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est, quand on parle de Thayyib, c'est la personne qui a déjà été mariée un moment dans sa vie. Peu importe qu'il soit marié maintenant, au moment qu'il fait l'adultère, ou qu'il a déjà été marié auparavant. Tu comprends? Même divorcé, non. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, il doit être lapidé jusqu'à la mort, s'il était comme ça, s'il était déjà marié. Et c'est ça ce que Allah a légiféré pour les gens du livre avant nous, et il nous l'a légiféré à nous aussi. C'est-à-dire que même les juifs et les chrétiens, ils ont été, hein, on leur a légiféré, on leur a plutôt, pas légiféré, mais oui, Allah leur a révélé et légiféré de lapider ceux d'entre eux qui font l'adultère. Mais c'est quelque chose qu'ils ont abandonné. C'est quelque chose qu'ils ont délaissé par la suite. Et tu regardes même dans les livres des juifs et des chrétiens aujourd'hui, et tu les retrouves. Tu les retrouves, tu retrouves ces versets-là, et ces explications-là, tu les retrouves dans l'Ancien Testament. Des versets qui enseignent ou qui ordonnent la lapidation. Juste à titre d'exemple à ce sujet, parce que beaucoup de chrétiens, ils lisent pas la Bible, donc ils sont pas au courant de ces choses-là. Mais pourtant, il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 20, 10, Lévitique, chapitre 20, verset 10, l'homme qui commet l'adultère avec une femme mariée, l'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain, il devra mourir, lui et son complice. Le verset 20, dans Deutéronome, chapitre 22, verset 22 à 25, si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, tous deux mourront. L'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même, tu feras disparaître d'Israël le mal. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que la mort s'en suive. Hein? Donc ça c'est des exemples qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Puis il y a des peines aussi pour d'autres genres de crimes aussi. Il y a un verset comme dans Lévitique 20, verset 13. C'est écrit, l'homme qui couche avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est une abomination qu'ils ont tous deux commise. Ils devront mourir et leur sang retombera sur eux. Il y a beaucoup d'autres punitions comme ça qui sont mentionnées dans la Bible. Mais bon, on va voir qu'est-ce que le cheikh va dire à ce sujet-là. Le cheikh dit, فَالْيَهُودْ غَيَّرُوا الرَّجْمُ فَالْيَهُودْ غَيَّرُوا الرَّجْمُ وَجَعَلُوا مَحَلَّهُ أَنَّهُ يُسَوَّدُ وَجْهُهُ وَيُطَافُ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ فَتَرَكُوا الْعُقُوبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ وَوَضَعُوا عُقُوبَةً مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ وَهَذِهِ الْعُقُوبَةُ جعلوها لأشرافهم أما بالنسبة لدعفائهم فكانوا يقيمون عليهم الحدود ويقصدون بذلك المحافظة على سمعة أشرافهم في حين لا يعبؤون بمن هم دونهم في المكانة وقد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا من أشراف اليهود زنى بامرأة منهم في المدينة وكان محصنا فضاقت حيلتهم فيه هل يرجمونه أو ينفذون فيه حكم التوراة أو ينقلون العقوبة إلى عقوبة أخف ثم إنهم اختلفوا في هذا فقالوا نذهب إلى محمد نسأله عن هذا الأمر فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما تجدون حكمه في التوراة وأراد أن يكشف زيفهم فقالوا نجد في التوراة أنه يفعل فيه كذا وكذا وكذا فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة فنشرت بين أيديهم فقرأوها ووضع القارئ إصبعه على آية الرجم وكان عبد الله بن السلام حاضرا وكان من أحبار اليهود ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم فقال ارفع يدك القارئ فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزاني فرجم ونفذ فيه حكم الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد الاحتجاج بما في التوراة لأن هذا هو حكم الله في القرآن وفيما أنزل الله عليه ولكن أراد أن يقيم عليهم الحجة بما عندهم ويبين كذبهم وافتراءهم على الله سبحانه وتعالى ففضحهم الله في هذه القضية. Donc le cheikh il dit les juifs ont changé le verdict. Regardez aujourd'hui, tous les juifs ils prétendent qu'ils croient en la Torah. Ils disent tous oui, on croit en la Torah. Hein? Et ils ont aussi la Talmud qui est la traduction verbale qu'ils ont de l'explication de la Torah. C'est écrit dedans la lapidation. Hein? Même les chrétiens, tu vois, il y a des chrétiens, ils disent, oui, on croit en la Bible. Mais ils disent, mais l'Ancien Testament, on n'a plus besoin de l'appliquer. Hein? Il y a des protestants parmi eux, tu vois, que, par exemple, ils vont appliquer certaines règles de l'Ancien Testament, mais d'autres non. Les juifs, eux, ils sont supposés croire en la Torah. Ils n'ont pas de Nouveau Testament, les juifs. Ils n'ont que l'Ancien. Donc en principe, ils devraient appliquer ce qui est dedans. Mais pourquoi ils ne l'appliquent pas? Parce qu'ils ont déformé le sens de tout ce qui est révélé dedans. Et ces peines-là, c'était applicable juste à une époque. Aujourd'hui, on n'est plus pareil. Les choses ont changé, les gens ont changé. Maintenant, on n'a plus besoin d'appliquer ça. Et là, le cheikh, il mentionne justement les exemples, comment les juifs ont changé leurs livres. Il dit, les juifs, ils ont changé le verdict à propos de l'adultère et ils n'appliquent plus la lapidation. Ils l'avaient remplacé à un moment par le fait de peindre le visage de la personne qui a fait l'adultère. Il leur peint son visage en noir et ils le font circuler, dans les marchés, la face noircie comme ça, comme châtiment pour l'humilier. Et ils ont abandonné la punition que Allah subhanahu wa ta'ala avait établie pour ce crime-là. Et ils ont mis à la place un châtiment qu'ils ont décidé eux-mêmes. Et ce châtiment qu'ils ont inventé, ils l'avaient appliqué uniquement pour les nobles. C'est-à-dire de peindre le visage et tout. Ça, c'était juste pour les gens nobles parmi eux. Mais pour les faibles, non, ils appliquaient la lapidation comme c'était mentionné, parce que ça leur dérangeait pas. Ils disaient, on fait ça juste pour préserver l'honneur et la réputation des nobles parmi nous. Parce que vous savez, parmi les juifs, il y a différentes castes, différentes classes sociales, il y a des degrés entre eux, parmi les familles, parmi les tribus, et ainsi de suite. Donc, non. Il y a des familles, il y a des tribus plus nobles que d'autres. Par exemple, pour les prêtres, ceux qui vont être rabbins ou quoi, eux, c'est en particulier, ils doivent venir d'une certaine tribu. C'est juste eux qui, les lévites et les kohens, c'est les deux qui sont des prêtres ou des rabbins. Puis les autres, ils font d'autres choses. En tout cas, je connais pas les détails de leur truc, mais ça c'est des choses que j'ai entendues comme ça. Et après, il dit donc, pour préserver l'honneur de leurs nobles, donc il leur faisait ça. Et le cheikh il dit, donc c'est ça. Après il dit, il est arrivé à l'époque même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a un juif parmi les nobles qui a fait l'adultère avec une femme à Médine, une femme juive. Il a fait l'adultère avec une autre femme juive. Et cet homme-là avait déjà été marié. Il était déjà marié. Alors, il ne savait plus quoi faire. Est-ce qu'on le lapide? Ou bien, est-ce qu'on le lapide et on applique le verdict de la Torah? Ou bien, on va chercher un châtiment qui est moins dur, plus léger? Alors, ils ont divergé entre eux sur la façon d'agir. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Alors, ils ont décidé finalement, ils ont dit, on va aller voir Mohammed. Ils ont dit, on va aller voir Mohammed et on va lui demander de juger. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur donne un verdict plus léger pour eux, pour les sortir de leurs problèmes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, qu'est-ce que vous trouvez dans c'est quoi le verdict de l'adultère dans la Torah? Ils voulaient montrer leur fausseté. Ils voulaient leur faire paraître à quel point ils sont malhonnêtes, comment ils sont faux. Alors, ils ont dit, dans la Torah, c'est écrit que quand quelqu'un fait l'adultère, on doit lui faire telle ou telle ou telle chose. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, amenez la Torah. Amenez la Torah ici. C'est ça que les gens aujourd'hui, ils font pas malheureusement, dans le sens que quand ils disent des choses, et les gens ils font, ah oui c'est écrit ça, ah ok. Le professeur Sam il s'est pas juste limité à dire, ok c'est ce que vous dites, d'abord je l'accepte. Non, il sait que ce sont des menteurs. Alors il leur a dit, amenez la Torah, on va voir qu'est-ce qui est écrit dedans. Alors ils ont amené la Torah, ils l'ont ouvert devant eux et ils ont commencé à lire. Mais la personne qui lisait, à l'endroit où c'est marqué la lapidation, il a mis son doigt. Il a mis son doigt pour cacher le verset. Alors, il y avait un sahabi qui était là, c'est Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, il était présent. Et avant l'islam, il faisait partie des rabbins parmi les juifs. Et Allah l'a guidé à l'islam. Alors, yani, subhanallah, il a dit, lève ta main, enlève ta main. Parce qu'il sait qu'il a mis sa main là, à cet endroit-là, pour cacher le verset. Alors, la personne qui lisait, il a levé sa main, et voilà le verset qui était ici, hein, le verset de la lapidation, il était là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que cette personne soit lapidée. Hein. Aujourd'hui, les koufars, tu les vois, ils sont scandalisés. Oh, les musulmans, pourquoi ils veulent accepter la lapidation? Non, 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 ils font du bruit, ils dérangent les gens avec ça. Ça, c'est dans notre religion, ça, c'est dans le Coran. Hein? C'est dans notre religion, c'est dans la Sunna. Et en plus, c'est même dans votre religion, parce que c'est dans la Torah et dans la révélation de l'Ancien Testament, dans la Bible. Qu'est-ce que vous croyez comme étant la Bible? Donc, nous, on est obligés d'y croire. Hein? Et là, ils sont révoltés comme ça. Et ils veulent enseigner un nouvel islam aux musulmans et aux non-musulmans. Puis, dans cet nouvel islam qu'ils veulent créer, il n'y a pas de lapidation dedans. C'est une autre version de l'islam qui est sans lapidation. On ne coupe pas les mains des voleurs et des choses de ce genre. Ça, ce n'est pas l'islam d'abord. Hein? Ça, ce n'est pas l'islam. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, il dit... Qu'est-ce qu'il a dit après? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué la lapidation sur ces gens-là. Comme c'est arrivé à l'époque des autres prophètes. S'il y avait quelqu'un qui a fait l'adultère, il allait l'appliquer. En tout cas, le messager, quand il a fait venir, le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait venir la Torah, le but de ça, c'était pas pour utiliser la Torah comme une preuve. Hein? Ou pour dire oui, on se base sur la Torah, non. Hein? C'était uniquement yani, pour établir la preuve contre eux. Pour établir la preuve contre eux. Parce que le verdict de la lapidation, il est dans le Coran. On n'a pas besoin de la Torah, nous. On a besoin juste du Coran, ça nous suffit. Hein? Parce que c'est ça ce que Allah a révélé. Donc, il a demandé la Torah, c'était juste pour établir pour eux. Établir contre eux la preuve et pour clarifier leurs mensonges et leurs faussetés et pour les démasquer. Donc Allah les a dévoilés dans cet exemple-là. Non. Donc le cheikh il dit في المقابل حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم حادثة مشابهة لتلك الحادثة وهي أن امرأة من بني مخزوم وبني مخزوم بطن من بطون قريش سرقت فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها تنفيذا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد شق ذلك على قومها أن تقطع يدها يد امرأة منهم وهم معروفون بمكانتهم بين القبائل فجاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيها فلما كلم أسامة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك غضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على أسامة فقال له أتشفع في حد من حدود الله ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفذ حكم الله وذكر المسلمين بما كان عليه أهل الكتاب من قبل وهو أنهم كانوا ينفذون الحدود على الشرفاء وذوي الجاه والمكانة وإنما ينفذونه على الضعفاء فخشي على أمته أن تسلك هذا المسلك الذي سلكه أهل الكتاب فأمر أن تنفذ الحدود على الضعيف والشريف فالله جل وعلا يقول ولا تأخذكم بهم رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. Donc le Cheikh il dit, par opposition à qu'est-ce qu'on vient de voir de l'exemple des Juifs, il y a eu l'histoire qui s'est produite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ressemble un peu à cette histoire-là. C'est une femme de la tribu de Makhzoum, Bani Makhzoum. Et Bani Makhzoum, c'est une des branches de la famille de Quraysh, de la tribu de Quraysh. Elle a volé cette femme. C'était une voleuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc voulu exécuter le verdict d'Allah dans le verset 38, dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne que la main du voleur soit coupée. Le verset 38 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et que le voleur et la voleuse coupaient leurs mains comme rétribution pour qu'est-ce qu'ils ont fait et comme châtiment venant d'Allah. Et Allah est certes puissant et sage. Donc, quand est venu le temps d'établir la peine et de couper sa main, les gens ont trouvé ça dur parce que c'est une femme d'une tribu parmi eux qui a un statut important et tout. Alors ils sont allés voir Usama ibn Zayd radiallahu anhu. Et Usama, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aime beaucoup Usama ibn Zayd. Donc c'est pour ça qu'ils sont passés par lui, pour essayer d'intercéder. Alors ils ont dit, va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, essaie de lui parler pour qu'il l'épargne. Pour qu'il ne lui coupe pas la main. Et Osama est parti. Il est allé le voir, puis il a essayé d'intercéder pour elle. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu en colère et il s'est fâché vraiment fort contre Osama. Il lui a dit, est-ce que tu veux intercéder dans une des peines parmi les peines d'Allah? Il lui a dit, par Allah, même si la voleuse c'était Fatima, ma propre fille, c'est-à-dire la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je lui aurais coupé la main. Même si c'était ma propre fille, j'allais lui couper la main. Et il a dit ça pour faire comprendre qu'une fois que c'est le temps d'appliquer la peine, il faut l'appliquer. Et donc il a dit ensuite, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceux qui ont péri avant vous, c'était uniquement justement parce que lorsque les nobles parmi eux faisaient un crime, comme par exemple comme un d'entre eux qui volait, ils le laissaient partir, ils le punissaient pas. Mais lorsque le faible parmi eux volait, ils établissaient sur lui la peine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu exécuter le verdict d'Allah et rappeler aux musulmans également ce que faisaient les gens du livre avant et pourquoi donc ils ont péri. C'était à cause de ça, parce qu'ils appliquaient les peines uniquement sur les nobles et ils appliquaient pas les peines sur les nobles et sur les gens importants et les gens qui ont un statut. Ils l'appliquaient uniquement sur les faibles. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur pour sa umma, il a eu peur que sa umma fasse la même chose que les gens du livre avaient fait auparavant. Alors il a ordonné que les peines soient exécutées sur les faibles et sur les forts, sur les nobles et sur les pauvres, les deux la même chose. Et il a mentionné à propos de ça, le verset dans Surat An-Nur, c'est le verset 2 dans Surat An-Nur. Il est marqué Nour ici. Il dit, et qu'un groupe, il dit, Et ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. C'est ça. Ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Ça c'est à propos de l'adultère, mais aussi la même chose pour la couper la main. Non. Et le cheikh il dit, ça c'est la justice par laquelle les cieux et la terre ont été établis. Et en même temps, ces punitions-là, c'est vrai, ils ont un grand pouvoir de dissuasion, exactement. Parce que la personne qui va voir ça, elle sait qu'elle ne va pas oser voler. Hein? Elle ne va pas oser voler. Et bien entendu, il y a des conditions aussi pour que la peine du voleur soit appliquée, comme aussi la peine sur l'adultère. Comme par exemple, il y a un certain montant. Si c'est pas plus la valeur de la chose volée dépasse pas ce montant-là, je me rappelle plus la valeur de ce montant exact maintenant, mais je sais que si ça dépasse pas cette valeur-là, on va pas couper la main de la personne qui a volé. Une autre condition parmi les conditions pour que on coupe la main de la personne qui a volé, il faut pas que ce soit dans des moments de famine, hein, des moments de famine ou de disette, ou bien disons quand il y a des guerres ou des fitan. Dans ces périodes-là, on n'a pas à appliquer les peines, contrairement à ce que font les Khawarij comme Daesh. Dans des moments de guerre et de fitan, eux c'est là qu'ils coupent les mains des gens, ils appliquent la lapidation, puis couper les mains dans des moments de guerre. Ça. Complètement contraire à la sunna. Également, une des règles parmi les règles de l'application de ces règles des punitions, c'est qu'il faut que l'objet qui a été volé, hein, elle a été protégée par une protection qui lui convient. Dans le sens que, il faut que, si par exemple, on a parlé de ça déjà dans les cours précédents, si c'est quelque chose qui a de la valeur, tu ne l'as pas mis dans un endroit qui est sécuritaire et que quelqu'un l'a volé, on ne va pas couper la main de cette personne parce que c'est toi qui l'as laissé à la vue ou qui ne l'as pas bien mis à un endroit qui était préservé. Donc c'est comme si tu as été une cause dans le fait que la personne est venue voler ça, hein? Si tu l'as mis dans un coffre-fort avec une sécurité et tout, des caméras et tout, puis là quelqu'un est venu pour essayer de le cambrioler, hein, il rentre la nuit avec des équipements pour ouvrir les coffres, hein. Donc là, comme elle est là, dans ce cas-là, tu sais que vraiment la personne elle a voulu le voler. Mais quelqu'un il rentre quelque part, la porte est ouverte, il voit des bijoux d'une grande valeur, il prend ça, il part. Tu l'as pas mis à un endroit sécuritaire, on va pas couper la main de la personne dans des cas comme ça. Il y a plein de conditions comme ça aussi. Donc la même chose pour l'adultère. Et en plus, bien entendu, il faut bien spécifier aussi parce qu'il y en a des gens ici maintenant sont devenus paranoïaques avec les musulmans. Donc il faut leur faire comprendre que les peines islamiques ça s'applique uniquement dans des pays musulmans et c'est seulement l'autorité du gouvernement, du dirigeant ou gouvernement qui a le droit de faire appliquer ces peines après que la personne accusée ait été jugée, hein, dans un tribunal et qu'on ait prouvé avec les preuves et les témoins que la personne est vraiment coupable. Tout ça, c'est des choses qui sont parmi les règles aussi de l'islam. C'est pas fait comme ces gens-là s'imaginent. Quand ils lisent que les musulmans coupent la main des voleurs, ils pensent que c'est n'importe qui dans la rue qui trouve un voleur, qui l'attrape par la main puis dit « Bon, toi, ça y est, je te coupe la main ». Et puis il prend son couteau puis il lui coupe la main comme ça devant tout le monde. C'est pas comme ça dans l'islam, d'accord. Et la même chose pour l'adultère, il faut qu'il y ait des conditions. Il faut qu'il y ait la personne, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait quatre témoins qui aient vu la personne en train de faire l'adultère et la fornication. Donc c'est pas juste quelqu'un comme ça qui regarde, voit quelqu'un en train de faire quelque chose. Même des fois, les ulama ils ont spécifié, ils ont dit même il faut pas que tu les aies vus juste par exemple comme ça, tu rentres, tu ouvres la porte, tu rentres, tu vois un homme et une femme nus ensemble dans la pièce. Alors tu vas dire aux gens, ah il a fait l'adultère. Non, dans ce cas-là, c'est toi qui vas être puni. C'est toi qui vas avoir 80 coups de fouet. Parce que tu les as accusés d'adultère, tu ne les as pas vus en train de faire l'acte. Ce n'est pas suffisant que tu les as vus nus ensemble dans la même pièce. Il faut que tu les aies vus en train de faire l'acte et que tu vois l'organe de l'homme qui va dans l'organe de la femme. Explicite. Il faut que tu le vois avec tes deux yeux. Il faut que vous soyez quatre à ce moment-là, quatre personnes. Si vous êtes trois, ça ne marche pas. Si vous êtes deux, ça ne marche pas. Si tu es tout seul, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait quatre personnes. Hein? Sinon, celui qui va le dire, c'est lui qui dit, qui accuse la personne. Il n'a pas quatre témoins. Il n'a pas vu en train de faire l'acte. C'est lui qui va être fouetté. 80 coups de fouet. Donc tout ça, c'est pour protéger l'honneur des gens. Protéger l'honneur des personnes pour pas que les gens commencent à accuser les autres sans preuve. Eh non, Allah musta'an. Donc ça fait partie des règles à ce sujet-là. Puis ça encore là aussi, la lapidation, ça s'applique uniquement dans un pays musulman et avec l'ordre du dirigeant musulman. Et il faut que ce soit après que la personne ait été jugée au tribunal et qu'on ait ramené des preuves, des témoins et des choses de ce genre. Sinon, on ne peut pas lapider la personne comme ça. Okay? Et ça, c'est la même chose pour toutes les peines en islam. D'accord? Donc, les gens là qui s'imaginent que les musulmans vont commencer à lapider dans la rue à Montréal ou au Québec ou aux États-Unis comme ça, hein, sans autorité, sans que ce soit établi par un gouvernement islamique. Non, ça se peut pas. Hein, c'est pas islamique, ça. C'est contraire même à l'islam. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, Naam, il dit, وقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهذا من باب الفرض وإلا فحاشا فاطمة رضي الله عنها أن تسرق يعني وهذا كقوله لنبيه لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فقال وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون يعني الأنبياء لو أشركوا لحبط عملهم وحاشاهم من ذلك الشرك يحبط الأعمال من جميع الناس حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أشركوا فكيف بغيرهم. Donc le cheikh il dit, quand le prophète sallam il a dit par Allah, par celui qui tient mon âme en sa main, si ma propre fille Fatima, la fille de Mohammed, était la voleuse, j'aurais coupé sa main. Il dit ça, c'est juste pour donner un exemple. Il dit c'est une supposition, parce que c'est clair que Fatima, radiallahu anha, elle va jamais voler. Hein? Mais c'est comme pour donner un exemple. C'est comme dans le verset 65 dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, on t'a révélé à toi ainsi qu'au prophète qui était envoyé avant toi que si tu fais le shirk, on va annuler toutes tes œuvres et tu seras du nombre des perdants. Et le cheikh il dit, quand Allah il dit ici, si tu fais le shirk, hein, on va annuler toutes tes œuvres, ça c'est, il dit, les prophètes, s'ils faisaient le shirk, Allah aurait rendu leurs œuvres vaines. Mais c'est clair que les prophètes ils vont jamais faire le shirk. Parce que déjà, ils sont protégés contre le shirk. Hein? Et ils combattent le shirk et ils détestent le shirk. Donc, ils ne vont pas faire le shirk. Mais c'est juste pour donner un exemple, pour faire comprendre aux gens que le shirk, il annule toutes les œuvres, peu importe, hein, qui est-ce qui le fait. Même si c'était des prophètes qui l'avaient fait, hein, qui avaient fait le shirk, eh bien, leurs œuvres, eux, à eux aussi, auraient été annulées. Donc, dans ce cas-là, tous ceux qui sont moindres que les prophètes, eux aussi, s'ils font le shirk, leurs œuvres vont être vaines. Donc c'est un exemple. Mais ça ne veut pas dire que les prophètes vont faire le shirk. Hein? Donc il faut comprendre ça. والمقصود أن إقامة الحدود على الضعفاء وترك الشرفاء فيه تشبه بأهل الكتاب. Donc, on va juste faire une note ici, puis on va s'arrêter là. C'est que comme on voit que les koufars, comme je disais, ils mettent beaucoup de pression en ce moment contre les musulmans pour qu'ils rejettent les peines de l'islam et pour qu'ils condamnent les règles de l'islam, des choses de ce genre. Il faut comprendre que c'est obligatoire aux musulmans de croire en ce que Allah a révélé dans le Coran et qu'est-ce qui est mentionné également dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans l'ijma des salafs. Il faut croire en tout ce qui est mentionné dans la révélation. Et que peu importe, yani qu'on soit dans un pays qui applique la charia ou qui n'applique pas la charia, on est obligé de croire que ça fait partie de l'islam et que c'est une obligation de l'appliquer, ces règles-là. C'est une obligation de les appliquer, même si elles ne sont pas appliquées. Dans le sens que, si on est quelque part où elles ne sont pas appliquées, il faut croire que Allah l'a rendu obligatoire et qu'il l'a révélé et que ça fait partie de sa religion. Et celui qui n'y croit pas ou qui rejette ces règles-là ou qui pense que ces règles-là sont injustes ou sont barbares ou sont inapplicables à l'époque actuelle ou que c'est des choses qui ne conviennent pas au XXe siècle, ça, tout ça, c'est des choses qui font que la personne sort de l'islam. La personne qui pense ça, elle sort de l'islam. Si elle pense que la lapidation, c'est quelque chose qui est contraire à qu'est-ce qui est bien, que c'est inapplicable, que c'est barbare, ou des choses comme ça, elle déteste ces choses-là, alors ça veut dire qu'elle n'a pas confiance en Allah. Elle n'a pas confiance en Allah et elle ne reconnaît pas la sagesse ultime et également la miséricorde. Hein? Ultime d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux, et c'est lui le plus sage des sages, et l'omniscient, celui qui sait toutes choses, et celui qui est en même temps le juste, il est juste envers sa créature. Donc s'il a révélé ces punitions-là, c'est parce qu'il sait que c'est les meilleures lois qui conviennent à l'être humain. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé, est-ce qu'il ne te connaît pas? Hein? Il ne te connaît pas, c'est lui qui t'a créé, c'est normal qu'il te connaît. Donc il sait quelles lois vont être profitables et plus bénéfiques et avoir le meilleur effet sur la société et sur les hommes de façon générale. Parce que c'est lui qui a créé l'homme et qui a créé la nature humaine, qui a créé l'être humain, qui a créé son âme. Il connaît l'être humain mieux que l'être humain se connaît lui-même. Donc, de penser que les lois que Allah a révélées ne sont pas bonnes, ou ne sont pas applicables, ou que ça c'est des choses barbares, et parfois des fois les musulmans, ils entendent les moqueries et les insultes et les critiques des koufars vis-à-vis de la charia et de l'islam, et ils sont pris de honte et de gêne, et ils commencent à vouloir même se désavouer même de l'islam et de la charia, et ils disent « non, moi je ne crois pas à ça ». Et les koufars, ils viennent voir des musulmans, ils disent, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec la lapidation? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de couper la main? Et yani, la réponse à ça, il faut dire, moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient de mon Créateur. Tout ce qui a été révélé par Allah, je l'accepte. Et je n'ai pas le choix de l'accepter parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, du moment que c'est dans le Coran et que c'est dans la sunna et que c'est authentique, alors je l'accepte et j'y crois et je me soumets à ça. Si c'est appliqué, alhamdoulillah. Si c'est pas appliqué, alhamdoulillah. Et si même moi-même j'étais coupable de cet acte et que j'avais fait ce crime, je devais le reconnaître comme étant venant d'Allah de la même manière que si je ne l'avais pas fait. C'est-à-dire que la charia d'Allah, il faut l'accepter même si elle est contre nous. C'est pas juste quand elle est en notre faveur. Tu dis, ah là j'ai mon droit, je suis d'accord avec la charia. Quand la loi est contre toi, tu dis, ah là je suis contre. Non, le musulman il est en accord avec la charia dans tous les cas, que ce soit pour ou contre lui. Sinon c'est un munafiq. Sinon ça c'est l'attitude des hypocrites. Ils aiment juste l'islam quand l'islam leur amène du bien. Et quand l'islam les condamne ou critique, qu'est-ce qu'ils font? Là tout d'un coup ils sont contre l'islam. Non, le musulman il doit être en accord avec la loi d'Allah et l'islam et qu'est-ce qui a été révélé
dans tous les cas, que ce soit pour ou contre lui. Parce que dans, le, dans l'application de la charia, et dans l'application des peines, et dans l'application de tous les autres aspects de la religion d'Allah, il y a un bienfait pour l'humanité, il y a un bienfait pour l'homme, il y a un bienfait pour la personne dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les exemples de ça, c'est que la personne qui a été lapidée pour son crime dans cette vie d'ici-bas, elle, elle a été purifiée de son péché à cause de ça. Et elle ne sera pas punie pour ça dans l'au-delà. Parce qu'Allah l'a punie dans cette vie. Donc ça c'est une expiation pour ton péché. Il y a un bien pour toi, puis un bien pour la société aussi, parce que les gens voient hein, que la personne elle a fait quelque chose qui fait du tort à la société, et à cause de ça elle a été punie, et ça, ça nettoie la société en même temps aussi. Parce que les répercussions de la fornication et les répercussions de l'adultère sur la société sont énormes et sont très mauvaises. Tu vois, à cause de ça, des enfants illégitimes qui naissent et des gens qui vont, ça veut dire des enfants qui vont hériter de choses qui ne leur appartiennent même pas. Ils vont rentrer dans des familles où ils sont pas, hein, pas, ils font pas partie de cette famille, mais on les rentre injustement. Par la suite, plus tard, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Regarde maintenant les gens ici, surtout dans, dans des pays comme ici. Les gens, ils se marient entre eux. Des fois, ils savent même pas c'est qui leur père, c'est qui leur mère. Peut-être son frère et soeur, ils se marient, ils savent même pas. Hein? Et même, comme tu dis, ils se marient même pas. Maintenant, c'est devenu comme les, par exemple, les animaux, là, quand ils se rencontrent dans la nature, comment ils se, s'accouplent. Ben, maintenant, les êtres humains, ils sont devenus comme ça. Hein? Chez les koufars, c'est comme ça. Hein? Ils se reniflent un peu, là, hein? Quand c'est la période de reproduction, et puis ça y est, c'est comme ça, ça couple et puis c'est fini. Et les êtres humains sont devenus comme ça. Hein? Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de il y a pas, il y a plus rien de humain. Hein? C'est ça ce qui distingue l'être humain de l'animal dans la façon d'avoir les relations entre les hommes et les femmes. Il n'y a plus rien de ça dans cette société des koufars maintenant. Et donc c'est pour ça que il faut, quand tu les entends là, critiquer les musulmans, là, tu dis, mais Allah al-Musta'an, est-ce que vous ne vous êtes pas regardé dans le miroir avant de critiquer les musulmans hein? Regardez votre société, comment les gens sont perdus, comment tout est à l'envers, et puis vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans qu'est-ce, que, dans qu'est-ce qui se passe autour de vous. On va s'arrêter ici avec ça, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.